des murmures dans les oreilles, des invités en tout genre.
Radio Pratique,
c'est l'heure de Radio Pratique.
Des créations sonores, des philosophes, des artistes.
Écoutez le vent.
Attention, ça va être à vous.
Je vais dire tu.
Sentir le vent.
Des poétesses de la scène.
Des circassiennes, des techniciens.
Saison 2021.
Tous qui discutent autour d'une table.
Écoutez le vent passer sous la peau.
Pourquoi est-ce qu'on s'échine à travailler la matière? Parce que l'âme, elle a besoin de s'incorporer quelque part.
Radio.
Pratique.
Considérer ses pensées comme des nuages.
En direct et en public.
Depuis le foyer du TJP Grande Seine.
Voilà. Bienvenue.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Radio Pratique. Si le théâtre est encore fermé, les micros restent ouverts et nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 27 janvier 2021 autour de la création de la compagnie Juste Après, intitulée Ride, un spectacle à voir des 2 ans. La compagnie a quitté Strasbourg hier, après 2 semaines de résidence pendant laquelle les artistes ont achevé leur création sans toutefois pouvoir rencontrer le public. Et à défaut de spectacle, nous partageons donc avec vous la rencontre enregistrée la semaine passée entre Renaud Herbin, marionnettiste et directeur du TJP, et Karine Gualdaroni, marionnettiste également et metteuse en scène.
Bonjour Karine, bienvenue sur le plateau de Radio Pratique au TJP.
Tu es en
résidence actuellement au TJP, tu devais présenter ton spectacle, voilà, une création mondiale à Strasbourg, et malheureusement, voilà, comme on sait, notre plan est contrarié une fois de plus. Mais tu es là et tu es au travail et on est à bien plaisir de te rencontrer ce matin. Peut-être tu peux nous dire effectivement où tu en es dans ton travail et qu'est-ce qui se passe dans le huis clos de la petite scène.
On est en train de terminer donc la création de Ride, qui est un spectacle pour les tout petits à partir de 2 ans. C'est un dispositif scénographique qui inclut les spectateurs à l'intérieur d'un parcours. Enfin, ils sont invités à aller d'un côté ou de l'autre d'un parcours qui va être traversé par Alice, qui est la danseuse, qui est aussi marionnettiste à sa façon. Ce qui est à l'œuvre, c'est la finalisation de l'espace. Qui est là, terminé. Les lumières sont quasiment aussi terminées. Le parcours est défini. Les étapes aussi sont très précises. Ça fait pas mal de temps qu'on... Enfin, à chaque résidence, on a rencontré les enfants. Du coup, le parcours, c'est un peu dessiné avec eux en fonction de la façon dont ils interagissaient avec ce qu'on leur proposait. Il y a des moments où on était un peu trop sans eux, donc on partait dans des concepts d'adultes, je dirais, et en l'éprouvant souvent avec les petits, on se rendait compte de ce qui fonctionnait ou pas. Et du coup, enfin pour nous, la rencontre en permanence était vraiment forte. Du coup, là, on espérait quand même terminer l'écriture de ce spectacle avec eux, donc. C'est la plus grande déception de l'impossibilité créée par ce contexte, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du geste avec ces petits. Que ce soit dans l'écriture du spectacle avant les premières ou à partir du moment où on joue. Parce que c'est aussi en les invitant que la forme prend forme, quelque part, que tous les jeux de regard, parce qu'en fait, Alice étant au milieu entre eux, elle interagit en permanence, elle les regarde et c'est aussi en s'appuyant sur eux qu'elle avance. Du coup, là, c'est un peu abstrait de devoir répéter sans la présence centrale, en fait, des enfants et ou des adultes, quoi. Mais c'est vrai que c'est complexe, en fait, de finir un spectacle qui est basé sur le spectateur sans le spectateur.
Et ça montre à quel point le spectacle vivant se fait dans la présence, dans la relation immédiate et concrète avec le public.
Oui, et pour en parler avec pas mal de compagnies qui n'ont pas pu créer depuis cet automne, c'est vrai que même dans les spectacles qui sont plus frontaux, on va dire, ou dans un dispositif plus classique, c'est vrai que ce moment de rencontre avec les spectateurs, il est fondamental. C'est ça qui crée la tension de fin de création, le rendez-vous, des fois aussi des prises de décision assez radicales en fin de création, parce que justement, il y a ce moment de rencontre, il y a toujours une sorte d'effervescence, qui se densifie avec ce rendez-vous-là. Et quand on a la chance de jouer plusieurs représentations, c'est toujours un moment où le spectacle prend un tournant. Et du coup, c'est vrai que ça questionne énormément de finaliser une création sans la présence de l'autre, des autres qui, en fait, sont la raison pour laquelle on fait ce métier. Du coup, j'ai l'impression que c'est aussi comme si on marchait sur de la neige et qu'on ne pouvait pas véritablement... Enfin, il y a quelque chose qui absorbe la fin de la création en attendant quand même qu'un jour ce rendez-vous ait lieu.
Oui, ben il aura lieu. On va prier pour que ça marche.
Ouais, on attend.
En tout cas, nous, on sera ravis de pouvoir découvrir la création quand on pourra. On organisera tout ça. Moi, j'ai une petite question sur ton désir d'aller du côté de cette enfance ou de cette jeune enfance. Qu'est-ce qui t'a amené à aller de ce côté-là? Parce que c'est pas ton parcours, c'est une nouveauté dans ton parcours, disons, dans ton parcours d'artiste.
Ben, c'est vrai, quand on est marionnettiste, enfin, tu le sais aussi bien que moi, on est souvent apparenté au spectacle pour enfants. Quand on dit qu'on est marionnettiste, généralement, la deuxième question qu'on nous pose, c'est « Ah, et donc, tu fais des spectacles pour enfants ?» Et c'est vrai que j'ai toujours été en résistance par rapport à ça, parce que j'avais envie de revendiquer vraiment la marionnette pour adultes comme une nécessité, comme un art aussi qui se partageait... voilà, enfin ça c'était mon désir fort quand j'étais à l'école et après quand j'en suis sortie. Et c'est vrai que mon parcours en tant qu'interprète m'a amenée à jouer pour les enfants. Je me suis rendu compte aussi que c'était un langage, la marionnette, qui est très accessible en fait pour eux, puisque, enfin en tout cas quand il n'y a pas de parole, le mouvement, la lumière, le son, c'est des choses auxquelles les petits sont très sensibles. Peut-être même bien plus que nous, les adultes, qui par moment focalisons un peu notre attention sur ce à quoi on désire être attentif. Et en fait, c'est toi qui m'as proposé cet exercice de style, moi qui me faisais vraiment peur en plus. Enfin, je me disais, waouh, pour faire un spectacle pour enfants de qualité, c'est pas rien. Ça m'a toujours impressionnée en fait, plus que pour les adultes, de m'adresser aux petits. Et du coup, suite à cette proposition que tu m'as faite, je me suis dit ok, alors essayons. Et c'est vrai que de plonger dans ce genre de spectacle, c'est une toute autre façon de créer, parce que justement le public est différent et il y a quelque chose un peu de l'ordre du radical aussi qui se pose, je trouve, dans le geste. On va droit aussi dans une direction, parce que je crois que en face, le spectateur, la spectatrice, ils sont assez exigeants finalement, parce que l'attention, elle est très instantanée, très focalisée, et rapidement, il passe à autre chose. En plus, là, il se trouve que parallèlement, je suis devenue maman d'un petit garçon qui a cet âge, l'âge du spectateur, il a 2 ans, un peu plus. Et c'est vrai que de vivre avec lui au quotidien, je réalise d'autant plus ce qui vibre ou pas du tout dans ses préoccupations d'enfant, au regard de moi, mes préoccupations d'adulte, et même juste l'attention au présent, qui est absolument différente de la nôtre.
Et donc, c'est une attention dans ce que tu proposes aux gestes de la danseuse, à ses mouvements, à ses rythmes, ses déplacements, et aussi à la matière, à la matière physique que tu utilises. Tu veux nous en dire 2 mots?
Pour ce spectacle-là, ça me tenait très à cœur d'aller mettre les pieds et les mains dans la terre, d'aller fouiller un peu dans les couches qui nous supportent, en fait. Et du coup, j'étais très marquée par des images de désert que j'ai pu traverser, quand j'ai pu aller en Afrique, par ce sol rouge et qui m'appelait beaucoup, et je n'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Et du coup, là, on a pris de l'argile rouge que j'ai laissée sécher, que j'ai découpé en fragments, et comme des parties d'un paysage ou d'une civilisation ou de plusieurs civilisations. Et du coup, le sol est jonché de tous ces fragments de terre rouge dans lesquels Alice fouille. Enfin, on a situé ça sur une sorte de site archéologique. Du coup, elle fouille à l'intérieur de ça. Et avec Jérémy, qui est le créateur musical, on a beaucoup parlé de paysages sonores, c'est comme si on essayait de faire une sorte de, pas d'inventaire, mais de, quand on soulève un fragment, c'est une portion de l'humanité qui peut jaillir, des sons qui pourraient être animaux, des sons de la nature, des sons d'une manifestation, de différentes choses qu'on peut croiser. Et on s'est beaucoup inspiré d'un compositeur qui, en fait, a enregistré des espaces un peu partout sur la Terre, il y a 20 ans et maintenant. Du coup, il y a vraiment cette notion de disparition qui émerge dans son travail, dans des coins du monde où c'était excessivement dense, par exemple en oiseaux. Et 20 ans plus tard, on n'en entend plus que quelques-uns. Et c'est vrai qu'il y a... Ça m'anime très fort, cette notion de disparition de l'humanité, des humanités, de la vie aussi, la notion de vie sur Terre et de ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, on va dire. Et du coup, signifier ça aussi par le son, par la plénitude et aussi par moment l'absence. Voilà, on se questionnait beaucoup là-dessus.
Donc la danseuse est dans une sorte de danse archéologique, d'aller fouiller concrètement dans le sol, dans ces éléments physiques du plateau, mais aussi, j'imagine, on n'est pas dans une disparition totale, puisqu'elle est là et elle est absolument vivante. Ouais. Et donc c'est quelque chose aussi que tu portes aussi.
Oui.
Dans cette relation directe au spectateur, comme on vient de le dire.
Oui, on n'est pas du tout dans l'ordre de la disparition dans ce spectacle-là. C'est des choses qui m'animent moi et aussi, parce qu'on, voilà, on laisse le monde à ces enfants-là, maintenant, qui ont 2 ans et qui vont grandir, ceux qui vont naître dans un monde masqué. On ne sait pas pour combien de temps on va emporter des masques. Mais oui, on est dans la présence pure et dans l'attention à Alice et maintenant. Alice, ce qui m'intéressait dans le fait d'inviter une personne qui vient plutôt de la danse, c'était aussi sa capacité physique à interagir avec la matière d'un point de vue sensible. Et du coup, vu qu'elle est sur un parcours en permanence, elle ne touche pas le sol. Comment son corps interagit en équilibre sur les planches de bois et aussi en relation avec la matière. Et c'est vraiment un travail énorme qu'elle fait de tenir en équilibre sur le parcours et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit quelque chose de complexe, en fait. C'est aussi comment on interagit avec les espaces dans lesquels on se trouve. Et là, c'est la question de la matière, du bois, mais aussi de l'argile, parce que, en fait, vu qu'elle est sèche, elle peut se briser très facilement. Et comment on trouve cette contrainte corporelle entre le corps en enjeu physique réel et la tension délicate à un matériau qui peut se briser. Et après, comment du coup cette qualité d'attention à l'objet, elle la transmet aux petits, qu'on invite ensuite à la fin du parcours à interagir directement et à créer avec Alice une sorte d'installation... avec des fragments qui viennent positionner sur le parcours. Et du coup, c'était aussi la question de comment on invite l'enfant à venir s'emparer de cette matière, de cette question aussi, de cette terre qu'on lui laisse en sale état et à laquelle il va être invité à prendre soin de cette matière-là, en fait. Et du coup, comment physiquement on les invite, en fait, à prendre en main cette matière, ce projet, ce parcours, et à partir du moment où eux commencent à interagir, quand ça se passe bien, Alice disparaît et elle les laisse terminer le parcours à sa place, quoi.
Et est-ce que la Terre révèle ses secrets ?
Oui, je crois. Je crois qu'elle révèle plutôt nos secrets à nous, en fait, les secrets de chacun, parce que c'est un matériau très primitif. Quand on met les mains dans la terre, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et peu importe son état, souvent, quand les enfants s'en vont, je leur laisse des petits morceaux de terre qu'ils peuvent ramener chez eux. Symboliquement, ça me parle. Et y en a qui sont vraiment très contents de pouvoir partir avec, prendre un petit morceau de terre. Et je sais pas, moi, j'ai découvert le potager cette année. Et en mettant les mains dans la terre, il y a quelque chose d'assez immédiat qui m'est parvenu, sans trop vraiment savoir ce que c'était. Mais j'ai l'impression que c'est un matériau, une matière qui appelle vraiment à la reconnexion simple, de l'homme avec cette matière qui nous porte, en fait. Voilà.
Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Karine, pour ce petit entretien. On va te laisser continuer à travailler et merci. On a hâte de découvrir tout ça tôt ou ouais. tard.
Moi aussi.
Nous arrivons au terme de cette émission. D'ici quelques jours, vous pourrez découvrir une création sonore en lien avec le spectacle Reed à écouter sur le site Corps Objet Images ou sur la plateforme R22 Tout Monde, la web radio des arts et du commun. Sous la couette, au bureau ou dans la cuisine, tous les podcasts de Radio Pratique, création sonore, entretien, plateau radio sont disponibles à l'écoute. Merci à Karine Gualdaroni et à la compagnie. La danseuse, c'est Alice Masson. La musique est de Jérémy Bernard. Les lumières de Charlotte Gaudelu. Et c'est Olivier Thomas pour la scénographie. Merci enfin à Renaud Herbin, l'équipe du TJP et Radio Pratique qui ont préparé cette émission. On lâche rien et on se retrouve dès demain pour la rencontre avec les artistes Julia Kovacs et Arnaud Labbé-Delicata. À demain.